parler de gouvernance de l'eau, qui a ceci de merveilleux, pour remarquer que le hasard a voulu que je sois sur cette table celui qui gère la ressource en eau. Je le fais de manière très raisonnable, équitable, en s'assurant que tout le monde l'est pour ses propres besoins, dans une qualité, une quantité suffisante, à un prix raisonnable. très raisonnable. Donc, pour parler de cette gouvernance de l'eau, puis de ce titre, si jeune et déjà en crise sous forme d'interrogation, tout est né de cette année, 2015. 2015, qu'est-ce que c'est ? C'est juste l'année de sortie de la décennie internationale d'action, l'eau source de vie de l'Organisation des Nations Unies. Et dans un rapport thématique de 2013, qui, comme prévoyait la situation post-2015, a été caractérisé l'existence d'une crise de l'eau, une crise polymorphe. Et le rapport pose un constat qui dit la crise de l'eau est effectivement une crise de gouvernance. Alors, c'est sur cette affirmation que j'aimerais qu'on réfléchisse. Et puis, je trouve que ce colloque, et puis ce panel particulièrement, représente une occasion vraiment particulière de discuter de ce constat, puis donc de centrer notre interrogation sur cette question, cette gouvernance de l'eau telle qu'elle est abordée par les Nations Unies. Est-ce qu'elle est vraiment à la fois si jeune et déjà en crise ? Alors, comme un reflet sur l'eau, la matière est elle-même une matière qui est particulière pour réfléchir à la thématique du panel gouvernance environnementale et puis changement climatique. Pourquoi ? Parce que la gouvernance environnementale et la gouvernance de l'eau est au cœur de ce qu'on va appeler la gestion intégrée des ressources en eau, que j'ai appelé dans le courant de l'exposé GIRE, G-I-R-E, et on la retrouve à la fois à l'international mais aussi au national. Quand on regarde le contenu de la loi québécoise sur l'eau de 2009, on va retrouver cet aspect de manière extrêmement forte. À l'intérieur de la directive cadre européenne sur l'eau de 2000, on va retrouver également cette dimension. Et c'est pour ça que on a cet aspect qui est important. Un autre volet, c'est la multiplication des zones de déficit hydrique ou de stress hydrique. Et qu'est-ce que c'est que ce stress hydrique ? C'est simplement la question de zones où, dans un endroit donné, c'est très important cette localisation, dans un endroit donné, il va y avoir une inadéquation entre, d'une part, les besoins humains dans cet endroit et puis la disponibilité efficace de l'eau, à la fois en quantité et puis en qualité. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'en fait mon unique diapositive vous rappelle tout au long de la présentation cet aspect, c'est que ce sont des crises qui sont localisées, qui sont régionales, mais ce sont des crises qui se multiplient. Ce sont aussi des crises qui se développent là où on a cette inadéquation entre la disponibilité de la ressource et puis la présence humaine. Donc ça veut dire qu'on va affecter des zones qui sont généralement à forte densité de population. Donc dans le cadre de ce colloque, réfléchir sur 70 ans en matière d'eau, c'est analyser une période qui finalement va s'écouler de l'abandon des grands plans de gestion quinquennaux qui ont accompagné la chute du bloc soviétique, au développement progressif d'un très très grand nombre d'accords internationaux qui vont regrouper toute ou partie des États qui vont être riverains d'un cours d'eau international. Et puis on va aller jusqu'à l'affirmation par de nombreuses institutions des Nations Unies, l'Assemblée Générale, le Conseil des Droits de l'Homme, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, etc., les États de la Conférence de Rio et de Rio+20, d'un droit humain à l'eau et à l'assainissement. On va distinguer dans cette évolution deux ensembles. D'un côté, on va avoir vraiment la gestion interétatique des ressources qui relèvent de droits qui sont essentiellement régionalisés, des droits qui sont subjectifs, interétatiques. Et puis d'autre part, on va avoir les garanties de droits fondamentaux qui relèvent, eux, de droits qui ont une vocation essentiellement universelle et qui vont être des droits objectifs. Et ces deux ensembles ne créent pas de conflit. Au contraire, ils vont démontrer des capacités d'articulation. Surtout un aspect commun. Cet aspect commun, c'est celui du renforcement nécessaire de l'intégration des usages de la ressource. Et c'est rendu nécessaire par quoi ? Par l'interdépendance renforcée autour d'une ressource en eau qui est localement limitée, qui est soumise à une très forte utilisation et à des utilisations qui vont développer des concurrences. L'eau, je vous le rappelle, sur trois aspects. L'eau est une ressource qui n'est pas renouvelable. L'eau est une ressource épuisable. L'eau est une ressource qui n'est pas substituable. Réfléchir sur 70 ans en matière de gouvernance, c'est aussi constater trois étapes dans l'appréhension de l'eau par les Nations Unies, mais aussi par les États. On va voir qu'il y a une synchronie en l'espèce. On va constater jusque le début des années 70 une quasi-atonie en matière gouvernance de l'eau, d'encadrement de l'eau. De 1970 aux années 2000, on va avoir vraiment un essor déclaratif et théorique sur la matière. Et à partir de 2000, on a une très récente généralisation de la mise en œuvre qui va se développer. Donc on va avoir des modes de gouvernement de l'eau qui vont tendre, et je viens du gouvernement, vont tendre à s'intégrer autour des gestions, des utilisations, et puis cette intégration progressive des intérêts, et à terme cette intégration progressive des acteurs dans des processus d'information, dans des processus décisionnels, va définir cette gouvernance. On va parler de la gouvernance comme un processus d'inclusion des intérêts de chaque partie prenante, que ce soit les utilisateurs finaux individuels, les utilisateurs industriels, etc., aux différents stades, soit de la création de bases d'informations, Sylvestre Danga en parlait tout à l'heure, de l'élaboration de politiques générales, au stade aussi de la prise de décision, de leur encadrement, et enfin du suivi et du contrôle. Et ce processus de gouvernance peut donc recouvrir des degrés de formalisation extrêmement divers. Et en tout cas, on ne peut pas considérer que la gouvernance se limite vraiment à seulement l'intégration de la société civile dans un processus décisionnel. Concernant la définition de cette GIR, cette gestion intégrée des ressources en eau, on repose trois piliers. Le premier pilier, c'est un champ qui va être territorial, fondé sur le bassin versant. On va comme découper le monde, non pas en frontières, mais en bassin versant, c'est-à-dire une zone qui va être encadrée par des lignes de crête. Toutes les eaux de cette zone vont s'écouler vers un exutoire commun. Premier point. Second point, c'est la prise en compte de toutes les dimensions de la gestion. Ça va être la navigation, ça va être les crues, aussi faire une longue liste non exhaustive comme Bureau d'Assus. Tout à l'heure, les crues, le rejet des effluents, le pompage d'eau potable, les utilisations industrielles, la protection qualitative, les usages récréatifs, pour à chaque fois optimiser les intérêts distincts des différentes utilisations. Le troisième pilier d'agir, c'est la participation de l'ensemble des parties prenantes dans des processus de gouvernance. Et à ce sujet, comme nous allons le voir, l'appréhension de l'eau par les institutions de l'ONU montre davantage une gouvernance naissante plutôt qu'une gouvernance en crise. Et donc pour s'en rendre compte, on va passer rapidement à travers quatre étapes. La première étape, ça va être de commencer par s'intéresser à la matière eau. Donc on va descendre au niveau des fleuves et de leur gestion. Et puis on va apprécier peut-être mieux les défis qui sont posés aux Nations Unies. Et après on va voir le comportement des Nations Unies, la réaction des Nations Unies, à la fois sur un plan normatif, mais surtout sur un plan interinstitutionnel. Donc concernant cette vision par bassin, c'est donc mon premier point. Concernant cette gestion par bassin, on va s'intéresser à l'intégration des intérêts. Les bassins internationaux sont à peu près au nombre de 200 à la surface du globe, et puis ils vont affecter directement la disponibilité en eau d'entre 40 et 50% de la population mondiale. Et vous savez sûrement, et c'est absolument pas un hasard, que la première organisation internationale au monde est réputée être une organisation de gestion d'un fleuve international. C'était 1815, la Convention centrale sur la navigation pour le Rhin, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, comme à Strasbourg en France, dans un beau bâtiment récent, etc. Est-ce que c'est un hasard? Non, parce que l'eau a cette capacité de révélation de l'interdépendance des États et qui va donner des besoins de coopération à ces États. Alors, l'eau, d'une part, c'est une ressource qui va être partagée. Et quand on voit le partage, peut-être appréhendé de deux manières. Si je prends par exemple ma feuille d'intervention, on aura deux manières très matérielles de la partager. Première manière de partager cette feuille, c'est qu'on décide d'en avoir une utilisation solidaire. C'est-à-dire qu'on fait tourner la feuille, chacun prend ce qu'il veut, rajoute, et puis on a une utilisation solidaire de la feuille. La seconde utilisation de type partage que je pourrais faire, je ne peux pas le faire parce que je vais terminer mon intervention, mais c'est de déchirer la feuille en autant de personnes que nous sommes pour partager cette ressource. Donc je garde ma feuille. Mais on va voir que de manière très très claire, les États vont considérer la seconde option, c'est-à-dire une option de partage partition, non pas de partage solidaire dans l'utilisation des ressources en eau. Et c'est ce que je pense, ce qui rejoint ce qu'a dit Jérôme Delassus sur le rapport que vont avoir les États avec le multilatéralisme et puis finalement l'utilisation des aspects multilatéraux pour réfléchir, mais en gardant une effectivité, une opérationnalisation qui sera plus régionale ou locale. Donc, premier constat international, on est dans une situation où la ressource est partagée et souverainement partagée. Le second constat, c'est que chaque bassin fluvial international va être régi par un régime juridique vraiment propre, très 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 distinct des autres régimes. Et on va pouvoir ainsi trouver des États qui, autour d'un fleuve international, vont avoir vraiment une répartition par débit extrêmement figée dans le temps, qui va d'ailleurs très très mal s'adapter aux évolutions démographiques. On a des exemples entre Inde, Bangladesh, États-Unis, Mexique, qui sont particulièrement criants. Et puis, ces différents régimes, donc soit stricts, on va aussi trouver d'autres régimes qui vont mettre en place des systèmes de partage des bénéfices, notamment des systèmes de gestion intégrée, d'institutions de gouvernance ou d'institutions décisionnelles élargies. Et un très bon exemple, avec même des histoires de propriété commune, ce qui est rarissime en affaires étatiques, se retrouve autour du fleuve Sénégal. L'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, est un exemple extrêmement riche. Mais donc on a certaines organisations qui vont pousser ces standards, d'autres beaucoup moins. C'est ce qui rend strictement impossible le fait de tirer de cette matrice de cours d'eau internationaux un principe commun à ces sous-ordres juridiques qui portent une gire et qui portent elles-mêmes une intégration puis une gouvernance de l'eau. Mais ce qui est très intéressant de remarquer à ce stade vraiment interétatif, subjectif, c'est que sur certains régimes de bassin qui pouvaient rassembler certains acteurs du bassin, certains États du bassin, mais pas la totalité des acteurs du bassin, eh bien on assiste d'une certaine manière à un retour des exclus. Et il y a deux exemples qui sont très 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 parlants en l'espèce. Autour du Mékong, on avait une commission du fleuve Mékong qui existait, mais à laquelle la Chine n'était pas partie, pour double raison qu'on ne va pas aborder ici. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure, la Chine se rapproche de cette organisation du Mékong, d'abord par de l'échange d'informations, ensuite par de la conciliation très informelle, mais donc on a ce retour. On a aussi l'exemple très intéressant autour du Nil, d'un ensemble conventionnel qui a toujours maintenu l'Éthiopie, qui a pourtant 80% des eaux du Nil qui va partir de son sol vers l'Égypte. L'Éthiopie va toujours être exclue des ensembles conventionnels. Mais qu'est-ce qu'on remarque ? On a là un nouveau traité qui va exister, ce traité de la Renaissance, tel qu'il est appelé, et puis qui va incorporer l'Éthiopie à cet échange. Et qu'est-ce qui est révélateur ? C'est qu'on n'a pas d'intégration formelle en tant que telle dans un processus décisionnel, mais on va avoir une amélioration très, très nette, qualitative, quantitative, de l'échange d'informations et puis de la réflexion sur des partages d'intérêts. Donc c'est une évolution interétatique de développement de coopération qui est lente, oui, mais qui porte certains de ces aspects. Problème d'hétérogénéité des solutions qui est extrêmement clair. Donc les défis qui vont être posés aux Nations Unies, ça va être quoi ? Ça va être cette double existence. D'une part, de ressources en eau qui vont être très peu déplaçables, extrêmement localisées, attribuées souverainement, et puis le besoin auquel doivent répondre les Nations Unies, qui est une gouvernance de l'eau, de l'environnement, avec un aspect beaucoup plus global. Alors, défi aussi, parce que rappelons-le, l'ONU c'est une organisation de coopération, c'est pas une organisation supranationale, c'est pas une organisation d'intégration. Et donc elle va toujours devoir fonctionner dans le cadre de son mandat. Sa participation normative, c'est mon troisième point, et a été pendant très très longtemps assez discrète. On a une convention de New York sur l'utilisation des cours d'eau à des fins autres que la navigation qui existe, qui a été développée par la commission du droit international qui est liée indirectement via la 6e commission à l'Assemblée générale des Nations Unies, très ancrée dans l'interétatisme, convention cadre et aucune portée d'intégration des ressources. On a un seul aspect qui se développe, ça va être une tentative de prise en compte écosystémique de la ressource mais qui va être extrêmement fonctionnel. On est porté par un cours d'eau international, donc on va beaucoup limiter la chose. Dans le même esprit, on a eu un projet d'article sur les nappes phréatiques, donc l'eau souterraine, qui au début faisait naître extrêmement d'espoir. On avait des systèmes de responsabilité sans faute protectrices de l'environnement qui pouvaient exister. On avait la possibilité de mise en place d'organes de gestion intégrés des nappes phréatiques. Finalement, le projet se faisant, on arrive en 2008, hein, et puis en 2008, on se retrouve face à un projet complètement dénaturé au seul niveau de la Convention de 97. J'ai déjà dépassé 30 secondes, alors je vais vraiment accélérer. On arrive sur un aspect très important, c'est la convention d'Helsinki. Là, on est dans une convention développée dans le cadre de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Convention qui, elle, a vraiment une portée environnementale et dont la partie 2, notamment l'article 9, vont instituer des systèmes de coopération. C'est une convention qui a tellement bien fonctionné qu'au début, elle était juste ouverte aux États qui sont les États parties, si on peut dire, à l'UNECE. Et puis, depuis 2012, on a décidé d'ouvrir cette convention à l'adhésion des autres États pour augmenter sa portée. Ça, c'est un changement qui est significatif. Sur un plan interinstitutionnel, la grosse critique apportée aux Nations Unies, ça a été le fait que beaucoup de ces programmes, beaucoup de ces institutions spécialisées fonctionnaient de manière très cloisonnée et très concurrente. On a, sans les citer, l'UNESCO avec son programme hydrologique international, la FAO, les organes de la charte en matière de droits de la personne, le PNUD, le PNU, l'UNICEF, les commissions régionales, etc. Puis pour sur un programme de capacitation auquel j'étais intéressé au PHU UNESCO, le travail nous était rendu beaucoup plus difficile, pas du fait du groupe étatique sur lequel on travaillait, mais bien d'un fonds sectoriel des Nations Unies. Et pour répondre à cela, les Nations Unies ont créé un programme qui s'appelle l'eau du haut en 2003, qui vise à renforcer la coordination des différentes entités en reconnaissant le fait d'entités qui existent, qui sont interconnectées. Et il convient de remarquer de nouveau que ces piliers de l'eau du haut ou de ONU Water sont ceux de la gestion intégrée, tels qu'on va pouvoir les retrouver. Donc à titre de conclusion, avec une minute, je vais rendre sujet de mauvaise mauvais élèves de la table. À titre de conclusion, dans le cadre de son mandat, et je sais c'est vraiment très bref, l'ONU s'est saisie très tardivement de la question, mais toutefois il l'a fait sans retard. On voit qu'il y a vraiment une grande synchronie entre les États dans leur ordre interne et puis les États sujets de droit international dans leur juridique international. Donc c'est à partir de 2000 qu'on a vraiment cette très franche inflexion vers une gouvernance de l'eau, vers une gestion intégrée des ressources en eau, mais la généralité n'arrive pas à s'imposer du régionalisme extrêmement fort. Donc est-ce que la gouvernance de l'eau est en crise? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle soit en crise, mais elle est encore au stade, à différents niveaux, de sa définition, de sa prise d'effectivité internationale. Le fait, je vous l'ai dit, du fait d'une existence affirmée et positive dans certains ensembles régionaux, mais une très forte compensation par des régimes régionaux qui, eux, sont très fermés, qui ne sont pas des régimes de coopération, mais de coexistence. Alors finalement, on peut penser que s'il doit y avoir une crise, puis crise au singulier, c'est finalement moins la crise de l'inadéquation d'une ressource en eau avec des besoins humains, mais c'est une inadéquation matérielle entre des besoins humains qui sont globalisés et puis une réponse qui est nécessaire, mais qui va osciller entre le bilatéral, trilatéral, et puis l'institutionnel multilatéral beaucoup plus fort. Donc voilà, sur ce, mon doyen, je vous prie d'accepter mes excuses. Merci pour votre patience et vous remercie pour votre attention.